La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Chers amis, bienvenue dans ce lieu de prière. Bienvenue à vous qui êtes peut-être habitués des lieux et bienvenue à vous qui venez pour la première fois peut-être ce matin. En ce temps estival, il arrive que l'on aille faire un peu de visite aux autres temples en France. Et donc, vous êtes tous les bienvenus ici, dans ce lieu, ce matin. Vous êtes ici, chez vous. Bienvenue aussi à toutes celles et ceux qui nous rejoignent par le biais des réseaux sociaux. Nous sommes en communion les uns avec les autres, quelle que soit la distance qui puisse nous séparer. Et dans la même communion, je vous invite à commencer ce temps de culte qui sera accompagné par Simon Lawford, qui est avec nous ce matin, qui nous fait l'honneur de jouer pour nous ce matin. Et nous allons donc être accompagnés par lui à l'orgue. Je vous invite à la prière en commençant ce temps de culte. Éternel, nous venons en ce lieu avec nos vies telles que nous les vivons, telles que nous les considérons aussi, telles que nous croyons qu'elles sont considérées dans ce monde. Reçois chacun dans ce temple dédié à ta louange et que ta parole transforme notre vie. Que dans la prière et dans le chant, nous puissions t'offrir le meilleur de nos vies et qu'à l'écoute de ta bonne nouvelle, ce qui doit être transformé puisse l'être. Que ta grâce change notre regard sur nous-mêmes et sur notre prochain. Et que ton amour devienne notre loi. Amen. Et nous chantons le premier spontané que vous trouverez dans les psautiers français. Au tout début du psautier français, vous avez toute la liturgie avec les différents spontanés. Et Simon va nous jouer à chaque fois la première phrase des spontanés. Je vous invite à louer Dieu avec ce psaume, le psaume 146. Louez l'Éternel, mon âme, loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Et je vous invite à chanter ensemble le psaume 84 dans les psautiers français, les strophes 1, 2, 3 et 4. Je vous invite à vous asseoir et nous allons entrer dans la liturgie où nous nous remettons devant le Seigneur. Mais d'abord, écoutons ce qu'il nous dit pour notre vie. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous chantons ensemble. Voici ce que Job, en relisant sa vie, comprend de son humilité, ce qu'il dit à Dieu. Je sais que tu peux tout et qu'aucune pensée ne t'échappe. Ainsi j'ai parlé, sans comprendre, de choses étonnantes qui me dépassent et que je ne connais pas. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je renonce. Je me repens sur la poussière et sur la cendre. Nous chantons ensemble notre confiance en Dieu. Et je vous invite à vous lever pour recevoir ensemble le pardon de Dieu, renouvelé sur chacun d'entre nous ici, la grâce annoncée encore et toujours. Le Seigneur nous redit sa grâce et il dit à chacun de nous, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Chantons notre reconnaissance à ce Dieu qui fait grâce. Et nous confessons ensemble notre foi. Nous croyons que tu fais toutes choses nouvelles, pour le monde et pour nous, toujours et en tout temps. Toi, le Dieu de la résurrection, de la vie nouvelle et de l'homme relevé. Nous croyons que personne n'est enfermé dans la fatalité du malheur, mais que tu nous offres dans la foi l'horizon d'un bonheur. Nous croyons, grâce à Jésus, que l'homme est ton espérance et que ton amour pour lui est le même amour que tu as pour nous. Nous croyons qu'il est possible de nous laisser convertir à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain, et qu'ainsi le règne de Dieu peut advenir chaque jour par nos actes et nos pensées. Nous croyons qu'une fraternité de foi existe avec tous ceux qui se soucient de ce monde et de ceux qui le peuplent, et qu'ensemble, quelle que soit notre tradition de foi, nous pouvons rendre manifestes toutes les choses nouvelles que tu crées pour nous. Amen. Chantons ensemble.
Thank you.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir et nous allons écouter ensemble la lecture d'aujourd'hui dans l'évangile de Jean. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous restez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes les descendants d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu nous dire « Vous deviendrez libres. » Jésus leur répondit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Toute personne qui pêche est esclave du péché. Un esclave ne fait pas pour toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours. Si donc le Fils vous libère, vous serez vraiment libres. » Voilà ce qui est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, les versets 31 à 36. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 178 dans les louanges et prières, les strophes 1, 2 et 3. 178. Prions ensemble. Éternel, apprends-nous à écouter ta parole. Qu'elle entre dans nos cœurs et nous inspire aujourd'hui comme elle inspira les hommes et les femmes d'hier qui ont transmis leur témoignage de foi dans la Bible. Que ta parole anime nos pensées et nos actes pour que nous devenions des évangiles pour ce monde. Amen.
Thank you.
Libre. Voici un mot que nous avons beaucoup entendu ces derniers jours, à propos d'une question sanitaire qui nous concerne tous. Ce fameux pass sanitaire qui déchaîne les passions. On s'insurge, on s'indigne, on se révolte pour la liberté individuelle et pour le droit à disposer de son corps librement. On entend des mots terribles, on entend le mot dictature tout d'un coup, et parfois même des mots qui nous renvoient à des époques tellement sombres qu'on a du mal à dire ces mots. À première vue, rien que de très louable, car enfin, n'est-ce pas la dignité de chacun que de pouvoir choisir quels soins il va accepter ou non pour sa propre santé ? En se positionnant librement pour ou contre une politique de santé, n'affirme-t-on pas sa dignité de citoyen d'un pays libre ? On peut très bien comprendre que ce soit un débat. Et pourtant, cette liberté chérie, brandie comme un droit fondamental, soulève immédiatement un problème. Peut-on se décréter libre sans tenir compte des circonstances dans lesquelles on se trouve ? Et qu'en est-il de nos relations avec les autres quand on impose sa liberté individuelle dans un contexte où nous sommes tous concernés collectivement par les conséquences des actes de chacun ? N'oublions pas que nous sommes dans une pandémie et combien de morts cette pandémie a déjà fait sur toute la Terre. Loin de moi l'idée d'utiliser la prédication de la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour prescrire ou non la vaccination. La prédication n'est pas une prescription et certainement pas une prescription médicale. Mais il est évident que cette question concerne notre liberté de conscience et comment nous en usons. Alors je suis allée voir dans la Bible ce qui se disait à propos de la liberté. Dans le Premier Testament, le livre de l'Exode se déploie autour d'un événement en lien direct avec la liberté, puisqu'il s'agit de mettre en récit l'événement fondateur d'une conscience collective, la libération par Dieu d'un peuple esclave en Égypte. Dans le Second Testament, il est question de liberté, surtout dans les épîtres de Paul. En revanche, dans les évangiles, on trouve bien des personnages liés ou déliés selon qu'ils sont libérés ou non d'un fléau physique ou psychique. Et l'on trouve assez peu, au bout du compte, assez peu souvent le terme de liberté. Ce n'est pas un hasard si l'évangile de Jean et surtout ce passage de controverse avec les Juifs convertis à la pensée de Jésus-Christ aborde particulièrement cette question de la liberté. C'est que l'évangile de Jean se déploie dans un contexte où les Juifs qui ont choisi de suivre le Christ sont tiraillés entre cette nouvelle école théologique et celle des synagogues pharisiennes de la diaspora juive. L'adaptation à la pensée du Christ n'est pas chose facile pour eux. Ils sont observants, ils font attention à la loi de Moïse et ils doivent renoncer à beaucoup de leurs pratiques et de leurs dogmes sans rien savoir de d'où les mènera tout cela. La question de la liberté dans le christianisme tel qu'il est expliqué dans l'évangile de Jean n'est pas posée de la même façon que dans le judaïsme pharisien auquel les premiers chrétiens sont confrontés. Là où la loi de Moïse représente ce qui va libérer un peuple asservi par d'autres de l'extérieur, en quelque sorte, les chrétiens représentent cette libération comme une grâce donnée intérieurement par Dieu dans la foi à chaque être esclave du péché. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un conflit interne. L'ennemi est en soi, en quelque sorte. Jésus s'adresse aux Juifs qui avaient cru en lui, dit le texte. Ceux qui précisément avaient commencé à le suivre dans ce chemin de grâce et qui commençaient sans doute à s'en détacher, à se détacher de lui en voyant ce que sa parole impliquait réellement en acte. Ces mêmes Juifs s'insurgent de l'entendre leur faire la leçon à propos de la liberté, alors que leur judaïsme tout entier repose sur l'affirmation d'une libération qui leur donna leur identité. Le peuple juif se vit alors comme le peuple que Dieu a libéré de l'esclavage. C'est cette liberté qui lui donne sa dignité. Comment Jésus peut-il leur dire, comme une promesse, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ne la connaissent-ils pas déjà ? Les fils d'Abraham ne sont-ils pas déjà fondamentalement libres ? Et puis comment peut-il conditionner cette liberté à la fidélité qu'ils auront ou non à l'égard de la parole d'un homme qu'il faudrait voir comme le Fils de Dieu ? C'est que pour le Christ, la référence à Abraham ne suffit pas à se dire libre. Et quand il rétorque « Un esclave ne fait pas toujours partie de la famille, mais un fils en fait partie pour toujours », il fait une référence que ses interlocuteurs juifs ne peuvent ignorer. Celle des deux fils d'Abraham, Ismaël et Isaac. L'un fils de l'esclave Agar est jeté dehors avec elle, et l'autre fils légitime de Sarah, Isaac, resté héritier d'Abraham. Avec cet exemple, Jésus introduit une nouvelle sorte de filiation qui ne passe plus par la génétique ou la biologie, mais par l'amour du Père, qui envoie son Fils dans le monde comme libérateur de chacun, qu'il soit né d'une esclave ou non, juif ou païen, légitime aux yeux des hommes ou non. Jésus témoigne de sa propre identité de Fils de Dieu, celle qu'il a non pas par nature, mais par la foi et la fidélité qu'il a envers son Dieu, envers cette parole qui l'a animé. Et c'est cette voie qu'il propose à ces Juifs qui avaient mis leur foi en lui. Il les encourage à continuer ce mouvement de conversion à une liberté acquise par grâce, dans la fidélité à une parole. En tout cas, c'est ce que l'évangile de Jean nous propose comme figure de controverse. Car ce passage parle peut-être plus des nouveaux convertis du christianisme du temps de la communauté de Jean que des juifs pharisiens qui suivirent Jésus en son temps. Il y a toujours ces décalages temporels entre l'écriture d'un évangile et le récit qu'il contient. En effet, il n'était pas facile pour ceux qui, au temps de la rédaction de l'évangile de Jean, donc bien après la mort de Jésus, avaient tout perdu, leur terre, leur temple. Il fallait qu'ils perdent encore leur identité de fils d'Abraham et se retrouver exclus des synagogues de la diaspora dans laquelle ils refaisaient leur vie. À cause de leur choix de suivre Jésus, les voilà maintenant exclus et sans identité. Comment allaient-ils exprimer leurs droits ? Comment allaient-ils affirmer leur existence et leur propre façon d'être ? Jésus parle d'une liberté que l'on n'a pas une fois pour toutes, et c'est peut-être cela qui dérange. Une liberté qu'on n'a pas en toutes circonstances, mais qu'il faut découvrir à chaque fois, chaque jour, dans une relation vécue à Dieu et aux autres. Une liberté qui se construit au fur et à mesure des choix éthiques que l'on fait dans sa vie. Une liberté qui peut donc être perdue chaque fois que l'on fait des choix qui nous séparent de Dieu et de sa parole. ce qu'il appelle le péché. Croire que l'on est libre par essence ou par naissance est rejeté par Jésus. Car alors, on reviendrait aux déterminations qui enferment et à ce qu'on peut appeler le destin. Affirmer sa liberté théoriquement ne règle rien pratiquement. Je peux répéter 10 fois par jour que je suis libre. Si je ne pose pas les actes qui vont avec, qu'en est-il de cette liberté ? Et c'est là que devient très actuelle cette promesse de Jésus. La vérité vous rendra libre. Jésus affirme que c'est en restant fidèle à sa parole que l'on peut découvrir une vérité qui rend libre. Alors quelle est cette vérité qui rend libre ? Est-ce une vérité théorique qui préexiste à tous nos jugements et à toutes nos recherches et qu'il faudrait découvrir cachée quelque part en nous ? Ou bien est-ce une vérité pratique qui se découvre au gré de nos actions humaines et dont il faudrait tirer les enseignements ? La vérité que propose Jésus n'est pas toute faite par avance. Elle est cette mise au service de 2 commandements, cette application de la loi en son fort intérieur. Aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. C'est cette loi qui lui permet de découvrir cette vérité qui le rend libre. C'est cette loi qu'il a reçue de son Père, de ce Dieu qu'il a considéré comme son Père, dont il s'est senti adopté. C'est cette loi qui lui donne la cohérence entre une parole reçue et son action avec ses contemporains. Jésus n'est pas libre parce qu'il fait ce qu'il veut pour lui-même, sans se soucier d'autrui. Il est libre parce qu'il est fidèle à des règles qu'il prend pour les jalons de son action envers autrui. La liberté est souvent revendiquée comme l'affirmation identitaire de soi-même. Elle suppose un sujet capable de faire des choix et de se déterminer sans entrave. Ce que dit Jésus à ceux qui le suivent, c'est que le premier choix qu'ils ont à faire est celui de la fidélité à la vie d'un homme, comme s'ils adoptaient une méthode particulière de vie qui leur permettait de découvrir une vérité libératrice. Alors, quelle est-elle cette vérité du Christ capable de rendre libre ? Jésus semble vouloir des adeptes qui réitèrent ce qu'il a fait lui-même. Comment marcher dans les pas d'un autre pourrait-il rendre le libre ? Dans la perspective de l'évangile de Jean, Jésus est Verbe créateur. Il est parole du Dieu incarné sur la terre. Vivre selon une parole capable de créer, vivre en étant parole de Dieu vivante, voilà l'engagement qui est demandé aux disciples de Jésus. Et comme toute parole qui s'inscrit dans des situations et des circonstances chaque fois différentes, cette parole est adressée. Elle concerne ceux qu'elle touche. Quand Jésus parle à un aveugle de naissance, il s'adresse à ce qui est sclérosé en lui, à ce qui nécessite une libération. Il dépasse ce qui semble déterminer l'aveugle et propose un avenir et une création nouvelle. C'est une parole pour lui, pas une parole en général. Dans la controverse que nous avons lue, les interlocuteurs de Jésus s'enferment dans une identité qui clôt la question de la liberté en l'affirmant comme un absolu. Ils se définissent comme fils d'Abraham et cela leur suffit. Mais Jésus est venu parler aux fils d'Adam, à ces hommes et à ces femmes qui peinent à s'émanciper de leurs déterminations humaines. Et ce n'est pas parce que ses interlocuteurs sont fils d'Abraham qu'ils ont des droits et qu'ils sont libres, mais ce sont les actes qu'ils poseront en accord avec les commandements de Dieu qui leur fera découvrir la vraie liberté, celle de choisir un chemin créateur celle de donner une ligne de vie qui refuse les fausses sécurités théoriques qui ne font de bien à personne, si ce n'est à la figure narcissique de chacun. Par sa vie même, par ses choix et ses engagements, le Christ est venu montrer une voie difficile du don de soi, contre l'affirmation de soi-même. Il agit par fidélité à un autre plus grand que lui et pour d'autres que lui que Dieu lui a confié. Il a choisi de faire confiance à Dieu et pourtant, tout en étant au service de ce Dieu, il n'est pas esclave, mais libre. Dans le chapitre 10 du même évangile, Jésus déclare, comme un comble à cette liberté, « Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » C'est donc dans l'obéissance à une parole qui le fait vivre que Jésus a découvert sa liberté et son autonomie. Et si nous étions tous appelés à devenir autonomes de cette façon christique? Et si cette vérité qui rend libre, c'était de vivre en obéissant à ces deux commandements qui contiennent toute la loi? Aimer Dieu et aimer son prochain, et ne jamais faire l'un sans l'autre. Pour revenir à l'exemple actuel de la liberté de se faire ou non vacciner, je dirais que le souci de la santé des autres et de leur survie n'est pas une option pour notre foi, mais un engagement. Et nous avons la chance d'être dans un pays de droit où la préservation de la santé de chacun est un droit. Beaucoup d'autres États ont encore beaucoup à faire pour offrir ce droit à leurs citoyens. Il est terrible d'entendre opposer la liberté individuelle à la santé de tous, et souvent des plus fragiles. Comme si la liberté devenait une arme contre la fraternité. Et il est encore plus terrible de l'entendre dans un contexte chrétien. Car enfin, notre liberté est précisément là où nous sommes capables de renoncer à notre individualisme pour faire ce qui est salvateur pour tous. La liberté que propose Jésus n'est pas un étendard identitaire qui refuse tout ce qui contraint l'expérience individuelle. La liberté que propose Jésus, c'est celle qui transcende les destins et les déterminismes individuels, et qui fait que collectivement, nous pouvons changer ce monde et faire advenir le règne de Dieu en rendant manifeste l'amour du prochain. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 258 dans les louanges et prières. Tu me veux à ton service, les strophes 1, 2 et 3. Voilà, je vais partager avec vous quelques annonces. Ma consœur Agnès est en vacances. Elle va pouvoir se reposer de tous ses efforts de toute cette année. Et nous lui souhaitons donc de très très bonnes vacances. Elle accompagnera cette année les paroissiens de l'oratoire qui souhaitent se rendre à l'Assemblée du désert à Mialet. Et vous pouvez encore vous inscrire auprès de notre trésorière, à l'adresse de notre trésorière, pardon, Juliette, qui est là, pour participer, pour être dans ce groupe de l'oratoire qui va se déplacer à Mialet. Donc chacun se déplace par ses propres moyens. Vous avez toutes les indications sur le site de l'oratoire. Mais une fois sur place, vous pouvez vous rassembler. Donc le samedi 4 pour une visite du musée du désert. Et puis, que vraiment je vous recommande pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est extraordinaire. Et puis le dimanche 5, bien sûr, cette magnifique assemblée où des protestants de France, mais aussi d'Europe et au-delà, viennent se rassembler dans un culte très impressionnant qui sera cette année présidé par Olivier Bress, qui est le président de la Mission populaire en France. Voilà. Et l'après-midi, il y a des conférences très intéressantes. Cette semaine, j'animerai la pause spirituelle puisque Agnès est en congé et donc j'aurai le plaisir de retrouver tous ceux qui viennent d'habitude à 12h30 ici même au temple pour la pause spirituelle, donc jeudi à 12h30. En juillet a eu lieu une belle visite à Château-Thierry où vous vous êtes retrouvé tout un groupe à visiter le musée Jean de La Fontaine et le temple de Château-Thierry qui est un temple mémorial très intéressant. Et grâce au couple Guttinger, vous avez pu donc vivre ce beau moment. Nous proposons de réitérer, si d'autres personnes veulent y aller, cette excursion le 21 août. Et donc, si vous voulez vous inscrire auprès de notre trésorière ou bien de notre présidente Aurore ou bien auprès du secrétariat, vous pouvez le faire pour que nous puissions constituer un groupe et retourner à Château-Thierry donc en août avec ceux qui le désirent. Voilà pour les annonces paroissiale. Nous allons maintenant vivre un temps d'offrande et ce dimanche est le temps d'offrande pour l'association de l'entraide de l'oratoire. L'entraide qui continue à accueillir les appels et les demandes des bénéficiaires de cette belle association et nous sommes donc tous associés pour mettre en acte notre solidarité, notre amour du prochain par le biais de cette offrande donnée avec toute votre générosité. Je vous invite à la prière. Seigneur, bénis-nous au moment où nous nous tournons vers toi pour te déposer tout ce qui anime notre cœur. Merci Seigneur pour tous les élans de générosité que nous voyons autour de nous dans des temps où des catastrophes naturelles ont lieu un peu partout sur notre planète. Permets, Seigneur, que nous soyons attentifs à la marche du monde, que nous puissions participer à notre mesure à la solidarité avec ceux qui sont touchés par ces fléaux. Apprends-nous à chercher la vérité en ce qui concerne notre terre, notre climat. Permets que nous soyons attentifs à cette planète qui nous est confiée. Que nous soyons, Seigneur, dans une attention particulière à l'avenir que nous préparons aux générations qui nous suivent. Donne-nous cette conscience et cette générosité que nos changements de comportement peuvent changer le monde. Nous te prions, Seigneur, pour tous les pays où la République ou la démocratie ne règne pas, où le droit du plus fort est le seul droit. Apprends-nous, Seigneur, à prier pour eux et à demander sans cesse, par nos actes, par nos attitudes, que les choses changent pour ceux qui sont oppressés sur la terre. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont enfermés dans la peur, tous ceux qui se réfugient dans des théories complotistes parce qu'ils ont peur de leur prochain. Apprends-nous à aimer encore plus fort pour que la peur disparaisse et que la fraternité prenne le pas sur elle. Apprends-nous à ne pas repousser les peurs, mais à les écouter pour pouvoir les désamorcer. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans notre communauté touchés par le malheur et que nous te remettons dans le secret de nos cœurs. Et ensemble, nous pouvons dire avec confiance la prière que le Christ adressait à son Père et qu'il nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, allez dans la vérité de Jésus-Christ, celle qui parle à votre cœur, celle qui parle dans votre foi. Et cette vérité vous rendra libre. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur qui a libéré son peuple vous bénit et vous garde. Amen. Et nous chantons.